Good Morning Business, le grand entretien.
7h45 sur BFM Business et sur RMC Life. Notre invité ce matin, c'est l'amiral Didier Malter. Bonjour, vous êtes aussi vice-président conseiller défense d'Excel Technologies. On va bien sûr parler ensemble du détroit d'Ormuz qui rouvre avec des bateaux qui passent à nouveau. Et cette question, évidemment, des mines. Vous travaillez, vous, sur cette question pour Excel Technologies depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on a aujourd'hui une vision assez claire de si oui ou non le détroit est miné ?
Alors, je vais répondre aussi clairement qu'on ne le sait pas. Et pour le savoir, il faut y aller. Alors, vous savez, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que le président Trump a décidé, quelque part, de jeter l'éponge, d'arrêter. Et finalement, c'est sans doute une bonne chose pour l'économie mondiale aussi, parce que sinon, on partait en récession. Maintenant, les Iraniens ont décidé de mettre en place des frais de service, on va appeler ça des droits de péage, un peu d'ailleurs comme les détroits turcs de Dardanelles et Bosphore, mais ça date quand même de la traité de la convention de Montreux. Et donc, est-ce que les Iraniens vont autoriser la coalition européenne à venir pour s'assurer que le détroit est libre de toute menace, ou ils vont garder cette ambiguïté et faire valoir cette ambiguïté en mettant en place des frais de service, de sécurité, alors qu'au début du conflit, le détroit était pleinement ouvert.
Si on y va, la France propose de fournir 2 drones de surface, qui est construit notamment par l'entreprise française Excel, un sonar tracté, un robot sous-marin téléopéré. Avec ça, on peut avoir une vision justement du détroit et de ce qu'il y a sous la mer ou sur la mer, parce que les mines peuvent être aussi
exactement
au niveau de l'eau.
Écoutez, effectivement, le président public l'a redit, il y a une coalition sous un directoire franco-britannique, une quarantaine de nations soutiennent cette initiative. Les moyens sont actuellement prépositionnés, pas dans le détroit d'Ormuz, mais sans doute un peu encore en retrait, dans l'attente du feu vert iranien. Donc on a 2 types de technologies. On a l'ancienne technologie, ce sont des chasseurs de mines, des bateaux avec des coques amagnétiques qui font 50 mètres de long avec un équipage à bord et qui ont un sonar pour s'assurer que les passages sont clairs. Et ils opèrent aussi un robot téléopéré qui est effectivement Excel, qui a été développé dans les années 70. Ça, c'est l'ancienne génération de la lutte contre les mines, qui est déjà très opérationnel pour la protection des sous-marins nucléaires que j'ai eu la chance de commander à Brest. C'est cette capacité-là qui s'assure que les routes sont bien dégagées. Ouais. Donc on déploie cette capacité outre-mer en l'occurrence en océan Indien. Et puis on a l'arrivée effectivement des nouvelles technologies pour laquelle d'ailleurs Excel a fait partie du leadership mondial. Et là, pratiquement tout est dronisé. C'est-à-dire que vous avez un bateau qui dispose des capacités dronisées. Il reste en dehors de la zone de danger et on va déployer donc des drones de surface. Donc c'est des bateaux de 12 mètres sans équipage à bord parce que l'enjeu c'est d'écarter l'humain de la zone de danger. Et ce vecteur, sans personne à bord, opère lui-même des drones sous-marins.
Parce qu'on parle de drones aériens beaucoup évidemment dans la guerre en Ukraine, mais également en Iran. Il y a des drones marins et sous-marins.
Oui, alors effectivement, on a tendance à croire que les drones, c'est essentiellement dans le domaine aérien. On le voit, l'importance dans la guerre en Ukraine notamment. Mais on en trouve partout. On en trouve à terre, on le voit sur les lignes de front en Ukraine, et également sur les océans, et également sous les océans. Je prends comme exemple ce qui se passe actuellement dans le Pacifique, et on peut le documenter. Excel fournit également des centrales inertielles de navigation, parce que sous l'eau, vous n'avez pas de GPS, donc pour vous localiser, vous avez besoin d'avoir une capacité inertielle de navigation. On les vend par centaines. Donc ça veut dire que l'US Navy, la marine japonaise et d'autres pays s'équipent, mais massivement, parce qu'en mer de Chine méridionale, l'ambition des Chinois, ils l'ont clairement décrété, c'est d'essayer de rechercher une sorte de transparence sous l'eau pour savoir ce qui s'y passe, notamment pour faire face aux sous-marins nucléaires américains. Donc il y a ce combat naval, en quelque sorte, cette bataille navale.
Mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était auparavant, je ne sais pas, où il y avait quelques sous-marins. Non, là, on a une bataille de drones sous-marines.
C'est une bataille du renseignement.
D'accord.
En fait, vous voyez, en termes de transparence tactique, on dit que à terre, au jour d'aujourd'hui, on arrive à savoir à peu près ce qui se passe sur les lignes de front 20 km de part et d'autre. Dans l'espace, c'est pareil. Dans les airs, mais en fait, il reste 2 endroits où c'est très difficile de savoir ce qui se passe sous l'eau. Et on le voit, Ormuz, c'est 60 mètres d'eau. C'est très peu d'eau. On n'arrive pas à savoir si les limites sont au fond. Et également sous terre, vous voyez comment les Iraniens ont développé des souterrains. Donc là, il reste encore ces deux espaces stratégiques où c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe.
Avec des enjeux stratégiques autour des câbles, autour d'Internet.
Oui, exactement. En fait, on peut presque dire que le 21e siècle, c'est vraiment le siècle de la maritimisation des enjeux stratégiques. On parle même de territorialisation des enjeux stratégiques. Regardez, en mer de Chine méridionale, les Chinois poldérisent des îles, c'est-à-dire des îles qui étaient inhabitées, ils les transforment en pistes pour leurs avions avec des capteurs. Et donc ces enjeux-là font qu'il s'agit de protéger les détroits, il s'agit de protéger le transport maritime, il s'agit de protéger aussi les câbles sous-marins. Plus de 95% d'Internet, des échanges financiers passent sous l'eau. 1% seulement par l'espace. Donc tout ça, quand ça a été développé, c'était pas protégé. Donc on a des vulnérabilités. On l'a vu en Baltique. Hein, j'avais la chance de faire partie de l'état-major de l'OTAN à Nordsoud. Les actions qui ont été opérées, notamment par les Russes, maintenant on peut le dire, en draguant avec des ancres les câbles sous-marins. Voilà. Il y a des enjeux maritimes énormes qui impactent le transport maritime, mais également le transport immatériel de l'Internet.
Mais vous disiez qu'Excel vendait par centaines justement cette technologie à l'US Navy. Ils n'ont pas, eux, cette technologie, c'est-à-dire que là-dessus, on est meilleur.
Excel est vraiment, et je le dis en toute humilité, hein, je viens juste de rejoindre l'entreprise et j'en suis particulièrement fier, le Excel fait partie des leaders mondiaux. Et en Europe, sans doute le leader mondial pour les centrales inertielles, en particulier pour les systèmes dronisés sous-marins. C'est toute une expérience qui commence dès les années 70. Donc on a quand même 50 ans d'autorité opérationnelle, j'aurais tendance à dire. Et toute cette connaissance, les ingénieurs qui développent des centrales à fibre optique, la fibre optique elle-même développée à Lannion. Donc tout ça, ça appartient à Excel. Donc on dit que c'est ITAR free, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dépendance aux Américains, et c'est de la R&D autofinancée. Donc voilà, ce qui donne une certaine force, avec une qualité de précision plus ou moins importante. Par exemple, on équipe intégralement la Royal Navy britannique avec des centrales inertielles de navigation d'Excel, qui montrent vraiment tout le savoir-faire de l'entreprise.
On voit évidemment le succès d'Excel, les contrats qui pleuvent, hein, parce que le carnet de commandes est particulièrement rempli, mais il y a tout un tissu de PME, de TI en France qui parfois galère, notamment parce que la commande publique ne suit pas toujours, on a besoin de financement. C'est quoi votre regard sur l'ensemble de la filière ?
C'est effectivement un environnement qui n'est pas simple, à tel point que l'entreprise Excel a fait quand même son chiffre d'affaires essentiellement à l'export. Plus de 80%, c'est de l'export. Dans le domaine de la défense, que je m'occupe tout particulièrement, les choses évoluent, notamment en matière de dronisation navale. On s'aperçoit que la France a la chance d'avoir 11 millions de kilomètres carrés en zone économique exclusive. Cette zone maritime est immense, 11 millions de kilomètres carrés. Il faut des moyens. La marine française, que je connais bien, elle a actuellement une quinzaine de frégates, c'est totalement insuffisant. Donc pour combler, il faut un mix capacitaire entre les legacy plateformes, les anciennes plateformes, et des drones qui vont vous permettre de faire des veilles permanentes. On a une coopération actuellement avec la marine qui couvre l'ensemble de la Méditerranée, hein, donc à Toulon, avec des drones qui vont surveiller des opérations illicites, de la pêche illégale, des opérations contre le narcops. Vous voyez, donc tout ça va permettre de muscler un petit peu la marine.
On peut combler, ce que vous me dites, c'est pas assez 15 frégates, on peut combler avec les drones ou il faudra de toute manière de nouvelles...
Le budget, il est ce qu'il est, quand bien même il a été augmenté de l'ordre du double. Quand on regarde un peu l'ambition qui a été fixée, notamment par le président Trump au travers de l'OTAN, c'est 100 milliards. On n'y est pas encore, on est à 60 milliards. Donc pour combler cette capacité-là, une frégate, vous savez, ça coûte 900 millions d'euros. Une frégate française, type FREM, 900 millions, avec un coût de 300 000 euros par jour. Donc ça coûte cher. Oui. Donc si on veut une capacité de veille permanente, on appelle ça permanent ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, le drone apporte cette plus-value avec des prix nettement plus faibles.
Merci beaucoup, Amiral, d'être venu ce matin sur le plateau de BFM Business.